Bonjour. J'aimerais parler donc cet après-midi pendant quelques minutes sur le thème suivant, le secret de la bénédiction de Dieu. Nous avons lu ces deux textes qui illustrent d'ailleurs ce secret. Dans la Bible, il y a un thème qui revient souvent et qui est à la source de toute bénédiction. Il est même à la source de notre marche avec Dieu. C'est ce thème, c'est l'obéissance. Tous les héros et toutes les héroïnes de la Bible ont découvert que l'obéissance à Dieu, à sa parole, était le secret du succès, comme la Bible l'entend, en matière de spiritualité. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous découvrons en effet que cette obéissance est constituée de trois éléments. Pour obéir, il faut que ces trois éléments soient réunis. Il y a d'abord l'écoute. Il y a ensuite la persévérance. Et il y a enfin l'action ou la mise en action. Parlons tout d'abord de l'écoute. Ce qu'on appelle le credo d'Israël, en d'autres termes, la profession de foi traditionnelle du judaïsme, est connue d'après ses premiers mots. Et ce schéma, ce credo d'Israël, que l'on appelle également le schéma d'Israël, puisque schéma veut dire écoute, se trouve dans Deutéronome, au chapitre 6, versets 3 et 4, et il dit ceci. « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est un. » Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tout commence par l'écoute dans la parole de Dieu. L'enfant qui naît commence évidemment par écouter. Il est dans un certain sens, dans tous les sens même, obligé puisqu'il ne sait pas encore parler. Donc il ne peut qu'écouter. Quand on veut apprendre, on commence toujours par écouter. Pendant les 3 ans qu'ils ont passé avec Jésus, les apôtres et les autres disciples de Jésus ont passé beaucoup de temps à l'écouter. Nous avons différents épisodes dans la Bible qui nous le montrent. Et nous voyons, par exemple, qu'un jour Jésus est entré dans la maison de deux sœurs qui s'appelaient Marthe et Marie. Ils avaient d'ailleurs un frère qui s'appelait Lazare, mais qui n'était pas là ce jour-là. Et il est dit que, au début, elles commençaient à préparer à manger pour Jésus et ses disciples qui étaient entrés. Et Jésus enseignait ses disciples. Et à un certain moment, l'une des deux sœurs, Marie, a décidé d'arrêter de préparer pour le repas et elle est venue s'agenouiller parce que c'était la position habituelle des disciples, quand ils écoutaient leur maître, ils se mettaient à genoux au pied de leur maître. Alors, il est venu se mettre au pied de son maître pour écouter Jésus. Et Jésus l'a complimenté d'une certaine manière après, en lui disant, Marie, en disant d'elle, Marie a choisi la bonne part, le bon rôle. Bien évidemment, les disciples n'écoutaient pas tout le temps. Ils parlaient également quand ils étaient avec Jésus. Ils dialoguaient avec Jésus, ils lui posaient des questions. Ils lui faisaient parfois part de leurs idées, de leurs requêtes. Mais la majeure partie de leur temps, ils le passaient à l'écouter. Dans l'Ancien Testament, nous lisons un texte assez intéressant, parmi tant d'autres, bien sûr, où nous voyons que, d'abord, les Juifs, dans l'Ancien temps, dans le peuple d'Israël, dans le passé, par le passé, pouvaient avoir, dans certains cas, des esclaves, qu'ils étaient, bien sûr, censé bien traiter. Et nous lisons que, par exemple, au bout de 6 ans, puisque c'était la règle, tous les 6 ans, les Juifs devaient libérer, rendre la liberté à leurs esclaves. Il nous est dit que parfois, il se pouvait que l'esclave veuille rester chez son maître, parce qu'il était justement bien traité. Et que là, il avait le logement, la nourriture, et on prenait soin de lui, pendant qu'en échange, il servait son maître fidèlement. Il pouvait arriver des cas où l'esclave d'un Israélite, d'un Juif, veuille rester avec son maître, parce qu'il s'y trouvait bien. Alors la Bible dit, Dieu avait donné cet ordre à Moïse, il lui avait dit, dans ce cas-là, le maître fera venir son esclave près d'une des portes de la maison, près de la porte d'entrée, et il lui fera un trou, il le percera l'oreille contre le battant de la porte pour montrer que cet esclave, dorénavant, lui appartiendrait pour toujours. On pourrait se demander, mais pourquoi ne perçait-il pas les pieds? Parce qu'un esclave, il a besoin de pieds pour marcher et obéir. Pourquoi pas une main? Puisqu'un esclave a besoin des mains pour servir. Mais la Bible dit non, c'était l'oreille qu'on perçait. Et je crois qu'il y a là un symbole, parce qu'un esclave, il a beau avoir des pieds, il a beau avoir des mains, mais s'il n'écoute pas, si ses oreilles ne fonctionnent pas, en quoi peut-il obéir? L'obéissance est à la base de tout. L'écoute est à la base de tout. L'écoute permet donc d'apprendre, de savoir, de connaître. Et parfois, le manque d'écoute peut entraîner des conséquences fâcheuses. Les exemples sont multiples. Certains sont sans importance ou sans conséquence, mais parfois, ils ont des conséquences graves. On nous dit que lorsqu'il y a eu, il y a 2 ans et demi à peu près, un accident entre un autocar et un camion, dans la région de Roquefort, dans les Charentes, un accident qui avait défrayé la chronique par sa gravité. Cet accident avait fait 6 morts, des écoliers, des adolescents qui allaient à l'école. Et cet accident était dû à une déficience au niveau de la benne du camion qui était rentré dans le car. En fait, il n'était pas rentré dans le car, mais la benne, le bord de la benne s'était baissé. Il était resté baissé, il avait coupé le car sur toute la longueur et tuer 6 adolescents. On a interrogé alors le chauffeur du camion, et il a dit, mais j'avais déjà fait remarquer qu'il y avait un petit problème avec la benne, justement avec ce panneau qui se remettait pas bien en place. Je l'avais dit à mes patrons, mais on ne m'a pas écouté. Nous voyons ici une des conséquences les plus dramatiques que peut avoir le fait de ne pas écouter. Parfois, on dit aux enfants, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, parce que tu peux te faire mal. Et l'enfant, bien sûr, pas toujours, mais au moins 1 fois sur 2, on va dire. Et l'enfant fait quand même la chose, puis après, il crie, il pleure, parce qu'il s'est fait mal. C'est le cas avec les plus petits, quand on leur dit, ne t'approche pas du four. Alors maintenant, on a des fours dont la vitre ne brûle pas, mais il y a quelques années ou un peu plus, les fours n'étaient pas aussi perfectionnés. Et on disait à l'enfant, ne t'approche pas du four, ne touche pas le four. Et bien sûr, souvent, l'enfant voulait quand même vérifier si l'information était exacte, et il touchait le four et se brûlait. La parole de Dieu dit dans Romains chapitre 10, verset 17, « La foi vient de ce qu'on écoute, de ce qu'on écoute de la parole de Christ. » La version de la Colombe dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Il y a une légère différence entre le fait d'écouter et le fait d'entendre. Si on écoute bien, on entend. Si on n'écoute pas bien, on n'entend pas. Luc, l'écoute est primordiale, mais bien sûr, tout dépend de ce que l'on écoute. L'écoute pratiquée par les premiers apôtres et les premiers disciples était essentiellement l'écoute de Christ. Dans Luc 24, 49, que nous avons lu tout à l'heure, Jésus dit à ses disciples, avant de les quitter pour remonter au ciel, « Voici, je vous enverrai ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Cela est rappelé un petit peu plus loin dans le livre des Actes, le chapitre 1er, comme cela a été lu également tout à l'heure. « Comme ils se trouvaient avec eux, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, dit-il, vous m'avez entendu parler. » Les disciples et les apôtres de Jésus l'ont écouté. Puis ils sont retournés à Jérusalem, car tel était l'ordre de Jésus. Ils n'ont pas essayé de réfléchir, d'interpréter la parole de Jésus. Ils ne se sont pas dit, on va commencer à travailler, on va commencer à évangéliser, on va aller dans certaines régions du pays, et puis on verra. Le Saint-Esprit finira bien par venir un jour sur nous, comme Jésus l'a promis. Mais ce n'était pas l'ordre de Jésus. D'ailleurs, quand ils sont retournés à Jérusalem, après avoir vu Jésus monter au ciel, la Bible dit, comme nous l'avons lu tout à l'heure, « Quand ils furent entrés, verset 13, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. » C'est l'écoute de ce que Jésus dit qui compte. C'est elle qui produit la foi. C'est ce que dit en d'autres mots Paul quand il parle aux Philippiens et qu'il leur dit de ne s'inquiéter de rien. Il leur dit que nous ne devons pas, quand nous sommes inquiets, penser qu'à ce qui est à la source de nos inquiétudes. Nous devons nourrir nos pensées de choses positives, de choses belles. Il dit au reste tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite d'être approuvé, ce qui est vertueux, ce qui est digne d'être loué, que cela soit l'objet de vos pensées. Nous devons nourrir nos pensées de bonnes choses. Le deuxième élément de l'obéissance, c'est la persévérance. Le livre des Actes est un exemple entre d'autres de ce que signifie la persévérance. Ce que nous écoutons, si nous écoutons simplement, ce que nous entendons ne sera pas facteur de résultat. Dans 1 Samuel 16, nous avons le récit de la visite du prophète Samuel à un homme qui habitait à Bethléem, et Samuel, le prophète, avait été envoyé chez lui parce que le roi de l'époque, Saül, n'obéissait pas à Dieu. Et Dieu, au bout d'un certain temps, a dit « Je vais le rejeter ». Et en même temps qu'il a dit cela, il a envoyé le prophète Samuel choisir l'homme qu'il avait choisi, lui-même, Dieu, pour succéder au roi Saül, sans pour autant dire quand cette succession aurait lieu. Quand le jeune David, puisqu'il s'agit de lui, a été oint, on versait de l'huile sur la tête du roi pour montrer qu'il était choisi par Dieu et qu'il allait devenir roi plus tard. Et on peut dire que quand David a été oint, quand on a versé de l'huile sur sa tête pour montrer qu'il serait le prochain roi, David savait pourquoi il était oint. À l'époque, deux sortes de gens seulement étaient oints d'huile comme cela. C'était les rois et les sacrificateurs, les prêtres. Cette onction, pour David, a été comme une parole de Dieu, une promesse divine. En quelque sorte, Dieu lui disait « Un jour, tu seras roi, parce que je l'ai décidé, parce que je t'ai choisi. » Cela, David ne l'a pas discuté, mais cela n'a pas garanti à David non plus qu'il aurait un règne parfait. Remarquons au passage que son prédécesseur, Saül, qui était encore sur le trône, avait reçu la même onction. La Bible dit même que lorsqu'il avait été oint d'huile pour être roi, Dieu lui avait promis qu'il serait transformé littéralement en un autre homme, qu'il recevrait les capacités, qu'il recevrait l'Esprit de Dieu et concrètement les capacités pour être roi, comme Dieu le voulait. Seulement, Saül n'a pas tenu bon. Il n'a pas respecté la volonté de Dieu. Donc, David, lui, a reçu à son tour la parole de Dieu. Il a écouté le prophète. Dieu a parlé, Dieu a promis. C'est l'histoire des premiers disciples que nous avons lu tout à l'heure, des premiers apôtres. Ils sont dans la chambre haute maintenant. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils attendent. Ils attendent avec persévérance. Combien de temps vont-ils attendre? Est-ce qu'ils le savent? Pas exactement. Enfin, ils ont une idée. Jésus, en effet, avant de les quitter, leur a dit, vous, dans peu de jours, dans quelques jours, le texte original dit lui-même, dans des jours qui ne sont pas nombreux, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Alors, ils attendent. Ici, il est question de persévérance. Donc, ils attendent, comme David a attendu. David a attendu peut-être 15 ans. C'est ce que l'on estime généralement. Regardez Moïse. Moïse, entre le moment où il a senti l'appel de Dieu dans son cœur et le moment où il a commencé à répondre à cet appel véritablement, Moïse a attendu 40 ans. Il est probable que d'une certaine manière, quand il a essayé de répondre lui-même à l'appel à l'âge de 40 ans, il a devancé l'appel, en quelque sorte. Parce qu'il y a deux choses. Il y a l'appel de Dieu, le fait que l'on sache que Dieu nous appelle, et il y a l'heure où il faut répondre à l'appel. Et très souvent dans la Bible, nous voyons qu'il y a un décalage entre les deux. Dieu appelle, parfois il envoie tout de suite, et d'autres fois Dieu appelle et il laisse passer du temps. Souvent, ce temps que Dieu laisse passer entre l'appel et la concrétisation de l'appel, c'est pour permettre à la personne de bien se préparer pour l'œuvre à laquelle Dieu l'appelle. David a attendu patiemment. Il aurait pu lui aussi devancer l'appel. Il a eu diverses occasions, c'est la Bible qui le dit, de tuer le roi précédent. Mais David savait que le plan de Dieu, ce n'était pas que lui-même tue le roi. Je dis cela parce que l'histoire nous apprend que le roi Saül lui-même essayait de tuer David parce qu'il avait appris que David allait lui succéder. Donc, on pourrait dire, humainement parlant, il était quelque peu légitime que si sa vie était en danger à cause du roi, si David avait lui par contre l'occasion de se débarrasser du roi, il aurait pu se dire, je vais le faire, puisque de toute façon, Dieu a dit que c'est moi qui allais lui succéder. Mais David ne maîtrisait pas le timing de Dieu, le plan de Dieu. Alors, il a refusé, même lorsque ses amis, ses conseillers, ceux qui l'entouraient, ses collaborateurs, lui conseillaient de tuer Saül, en une ou deux occasions, David a vraiment eu l'occasion de le faire, sans risquer pour sa vie, mais David a refusé, parce qu'il estimait que si Dieu a la prérogative en matière d'appel, il a aussi la prérogative en matière d'action, de concrétisation de l'appel. Quelque part, pour une raison étrange, l'homme a du mal à attendre et à persévérer. Je crois que c'est encore plus difficile à notre époque, où nous vivons à l'heure de l'instantané, de l'impatience. Les hommes ont de moins en moins de patience. Et dans bien des domaines de la société, on remarque que certaines personnes ont moins de patience qu'avant. Pourtant, il s'agit d'une notion que nos parents, nos ancêtres, avaient bien intégrée dans leur vie. C'est peut-être aussi pour cela que certains vivaient une vie plus stable. Il y a d'autres raisons, bien sûr. Mais il y avait aussi cette raison qu'ils savaient que dans la vie, il faut toujours attendre. Il y a des moments où il faut savoir attendre, du moins. Dans deux textes de l'évangile de Luc, nous voyons rappeler la nécessité de cette persévérance. Luc 8, 15, la parabole du semeur, vous savez qu'elle parle de quatre terrains, qui sont quatre conditions du cœur humain, avec lesquelles, dans lesquelles, nous recevons la parole de Dieu. Et la plus intéressante, c'est la quatrième, celle que Jésus identifie comme la bonne terre, c'est-à-dire le bon cœur. Et dans Luc 8, 15, Jésus dit que cette personne, ce quatrième terrain, ce bon terrain, c'est la personne qui écoute, qui entend la parole avec un cœur bon et honnête, qui la retient, elle l'a écoutée, elle la retient, et elle porte du fruit par la persévérance, ou grâce à sa persévérance. Nous avons là les trois éléments de notre message de cet après-midi. C'est la personne qui écoute avec un cœur bon, c'est la personne qui persévère, et enfin, c'est la personne qui porte du fruit, cela c'est l'action. Dans Luc 21, dans le sermon sur la montagne, la version de Luc du sermon sur la montagne, Luc dit, c'est Jésus qui parle, Luc rapporte ses paroles, et il dit, « C'est par votre persévérance que vous sauverez votre âme. » Ou « C'est par votre persévérance que vous sauverez votre vie. » Parce que votre vie sera fondée sur la parole de Dieu, sur les bonnes choses, sur les vérités spirituelles de la parole de Dieu, que vous aurez intégrées dans votre cœur, dans votre âme, et vous serez en état de tenir dans les difficultés. Remarquez au passage qu'il ne dit pas « vous sauverez vos corps », mais vos âmes, votre âme. Le corps n'est pas plus important que l'âme dans la Bible. Jésus dit même « ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme ». Que nous ayons la vie sauve importe moins que le salut de notre âme et sa bonne santé. Alors il y a enfin l'action. Le troisième élément de l'obéissance, c'est donc l'action. L'action, c'est ce qui fait de l'écoute, c'est ce qui fait de l'écoute une vraie obéissance. Vous vous rappelez l'histoire de ce général syrien dont la Bible parle, qui avait remporté de belles victoires, notamment dans sa guerre contre le peuple d'Israël. C'était donc un ennemi du peuple d'Israël, et dans sa dernière incursion en Israël, son armée avait fait prisonnière une jeune fille qui était donc devenue sa servante, ou plutôt la servante de sa femme. Et un jour, le général Naaman a découvert, alors qu'il était chez lui, c'était un héros national, comme on le dirait aujourd'hui, et un jour il a découvert que sur sa peau, il y avait des choses bizarres qui étaient en train de pousser. Et très vite, c'est moi qui ajoute cela au texte de la Bible, mais c'est sans doute ce qu'il a fait. Il a consulté un médecin, un spécialiste, un dermatologue, je ne sais pas comment les appeler à l'époque, s'il y en avait. Et ce médecin lui a dit, apparemment, il s'agit d'une forme de lèpre. Alors, d'un coup, le général Naaman a paniqué. C'est alors que la jeune fille juive qu'il avait faite prisonnière pendant sa dernière guerre en Israël, s'est rappelé que dans son propre pays en Israël, il y avait un prophète de Dieu qui pourrait lui indiquer la marche à suivre pour être libéré, guéri de sa lèpre. Parfois, comme nous le voyons ici, l'obéissance implique une action plutôt immédiate. Nous avons vu des exemples tout à l'heure avec David et Moïse d'attentes qui durent longtemps, des années. Parfois l'attente dure moins, comme dans le cas des disciples qui attendaient le Saint-Esprit dans la chambre haute. Ils n'ont attendu finalement que 10 jours. 10 jours, ce n'est pas long. Mais là, Naaman a dû lui-même obéir aux instructions du prophète qu'il est donc allé trouver. Et lorsqu'il est allé trouver le prophète pour savoir ce qu'il devait faire dans le cas de sa lèpre, le prophète lui a dit, tu vas aller te baigner 7 fois dans le Jourdain, la rivière principale d'Israël. Et le général a hésité parce qu'il s'est dit, mais je ne vais quand même pas me déshabiller devant mes soldats, enlever mon armure, enlever ma tenue de général et descendre à moitié habillé ou à moitié nu dans l'eau 7 fois en plus. Et mais quoi encore? Mais finalement, la Bible dit que ce général a obéi parce que l'un de ses soldats lui a dit, mais général, si le prophète vous avait dit de faire une chose très compliquée, vous l'auriez quand même faite pour être guéri. Alors ça, c'est plutôt facile à faire, se plonger dans l'eau. je ne sais pas si c'était l'hiver ou l'été, mais bon, peu importe, quand il faut le faire, il faut le faire. Alors le prophète s'est plongé 7 fois dans l'eau, et la Bible dit que quand il est ressorti de l'eau, après la 7e fois, donc une fois que l'obéissance était parfaite, il a été guéri de sa lèpre, sa peau est redevenue complètement saine. Pour que l'obéissance se réalise vraiment, il faut donc que l'écoute soit bonne. Dans sa petite lettre, l'apôtre Jacques dit que on peut écouter, mais oublier très vite. Il écrit « Si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde son visage dans le miroir et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais il dit « Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, celui qui a écouté la loi de Dieu et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. » L'écoute appelle donc souvent la persévérance, mais également toujours l'action. Les premiers disciples de Jésus l'ont écouté, ils ont entendu sa promesse et son ordre, qui était de retourner à Jérusalem d'abord et d'attendre la promesse qu'ils allaient recevoir dans quelques jours. Ils sont rentrés et se sont dit, nous n'allons pas aller travailler, nous n'allons pas aller évangéliser, puisque cela aussi, c'est un ordre de Jésus. Mais il nous a dit qu'avant d'évangéliser, il fallait attendre d'avoir reçu le Saint-Esprit. Ils ont attendu, donc 10 jours, et 10 jours plus tard, Dieu a envoyé son Esprit. Pourquoi ? D'abord parce qu'il l'avait promis. Et ce que Dieu promet, il l'accomplit toujours. Et ensuite parce qu'ils ont obéi. L'apôtre Pierre a dit dans une de ses premières prédications après la Pentecôte, « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » L'écoute ne suffit pas, il faut la persévérance et l'obéissance qui est l'action. C'est ce qui a distingué tous les grands hommes de la Bible et même les grandes femmes de la Bible. Abraham a fait confiance à Dieu, même lorsque sa parole semblait irréalisable, c'est-à-dire qu'elle devait faire appel à un miracle. Mais Abraham a appris à connaître Dieu comme étant celui qui tient toujours ses promesses et donc qui fait des miracles. Moïse a compris que c'est Dieu qui parle et qu'il donne toujours à l'homme les moyens d'accomplir ce qu'il demande. Je dirais en conclusion que les premiers disciples ont bien commencé. Ils ont écouté, ils ont fait ce que Jésus leur a dit, ils ont attendu tranquillement, Jésus a tenu sa promesse et leur vie n'a plus jamais été la même. Le premier secret du succès de la première Église est donc là, le secret de la bénédiction est donc là, dans l'écoute, la persévérance et l'obéissance. Que Dieu soit béni.